Bien. Eh bien, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Donc pour ceux qui on a déjà vu l'année dernière, enfin, je vous remercie d'être fidèles, surtout qu'on a changé un peu l'idée sur le mot. Et puis pour ceux qui sont. Oui, il faut que je me remette dedans. Hein. Ouais. Et puis pour ceux qui sont nouveaux, donc qui pour la première fois assistent à ce cours, je vais expliquer dans un premier temps un peu le mode de fonctionnement de ce cours, pourquoi on est deux, comment ça se passe. De manière assez générale, ce qu'on entend par philosophie générale dans ce cours, à ne pas confondre peut-être avec d'autres cours, qui ont aussi intitulé philosophie, mais ce n'est pas la philosophie générale, c'est autre chose. Alors un mot là-dessus, simplement avant pour des questions administratives, et puis ensuite je laisserai la parole à Bernard, donc un petit topo qui va durer quelques minutes, et je laisserai la parole à Bernard qui vous présentera par contre le thème de cette année. Plus en détail, la problématique qu'on a choisi de travailler avec vous cette année, le thème de cette année et à la suite de quoi la feuille que vous êtes censé avoir lorsque vous êtes rentré, qui est la feuille de présentation avec une bibliographie, etc. Ce qu'on propose là, c'est vraiment un cours d'introduction. Après la présentation du thème de cette année par Bernard, on commentera un peu la biographie, l'enchaînement du cours, et Bernard d'ailleurs, on terminera avec Bernard qui nous présentera, il a amené les livres de la biographie, vous présentera un peu chacun des livres de la biographie pour ceux qui éventuellement voudraient commencer à réfléchir avec des auteurs. Alors, d'abord, juste une chose, je ne sais pas si tout le monde est inscrit, ceux qui ne sont pas inscrits, alors ça ne leur empêche pas de suivre ce cours, évidemment. De toute façon, nous, on n'a pas le temps de contrôler trop nombreux, donc on ne va pas commencer à contrôler à l'entrée qui a quoi, ne vous inquiétez pas. Hein, alors on a terminé un quart reste, mais bon, pour l'instant, il est en train de café, on verra ça après. Simplement. Pour ceux qui n'auraient toujours pas, qui voudraient, à la suite de ce cours, parce qu'il y a ceux qui ont reçu ce cours, mais voilà, ça ne m'intéresse pas, donc très bien, mais ceux qui voudraient éventuellement continuer à venir dans ce cours, venir chercher cette petite fiche, voilà à quoi elle ressemble, c'est Bernard qui les a remplies, cette petite fiche qu'il faut ensuite rendre, vous avez la semaine, jusqu'au prochain cours, même un mois, parce que le prochain cours c'est dans un mois, vous avez donc du temps pour ramener ça à l'UAD avec notre petite signature, vous n'avez plus qu'à mettre votre nom, et donc ça vous permet de vous inscrire officiellement à cette course. Je rappelle que c'est une association, on dit université Interage, mais on ne dépend pas évidemment de l'université en tant que telle, c'est une association. Évidemment, comme toute association, elle a besoin peut-être un peu de ressources. Sachant que le montant que vous payez pour ce cours, ce n'est pas pour nous payer, puisque nous on est bénévoles, donc on n'est pas là, on n'a pas de salaire de l'UAD, c'est pour payer tout simplement la location de la salle. D'où la salle Westford pour le mercredi après-midi, donc c'est tout. Donc c'était une contribution assez modeste hein, par rapport à d'autres cours où les intervenants se font payer, et évidemment là, de ce coup, la participation est du tout. Bien. Oui, on ne se fait pas payer parce que ça nous permet, si un jour, par exemple, parce qu'il y a des étudiants qui viennent, qui ne s'intéressent pas et pas, mais si un jour, nous, ça ne nous intéresse plus, on part. Pas de contrat. C'est notre pouvoir. On va en parler. Bien. Ça, c'est pour les questions administratives. Pour les questions proprement administratives du cours, cette fois, pas administratives au-delà du cours, c'est à l'UAD, mais du cours en lui-même. Donc, il y a la photocopie pour ce cours-là, mais apparemment, il y a certains qui ont demandé, qui ont contacté Bernard, et qui ont demandé si c'était possible d'avoir les photocopies des cours de l'année dernière. Du coup, vous avez sur la table devant là, qui sont tous là, hein, rangés dans l'ordre. Ceux qui doivent récupérer certaines photocopies de l'année dernière, vous les avez là, à la fin du cours, vous viendrez les récupérer. Hein, il y en a suffisamment pour tout le monde. Voilà. Alors, tout d'abord, ce cours de philosophie générale. Là, je m'adresse évidemment plus, je m'excuse pour ceux qui sont, qui sont déjà là, qui ont déjà été là ces dernières années avec nous. Mais il y a ceux qui n'ont jamais été là, donc qui ont peut-être besoin d'un éclaircissement sur ce qu'on va faire, comment on le fait, etc., et comment ça va se passer. Donc, ça demande d'avoir peut-être 5 minutes de patience avant qu'on démarre vraiment. Le mercredi. Alors, jusqu'à maintenant, il faut savoir que c'était le jeudi après-midi de 14h à 16h. Ça a été mis le mercredi après-midi de 14h à 16h. pour plusieurs raisons. D'abord, une raison essentielle, c'est que moi, je ne suis pas à la retraite, même si Bernard est à la retraite, et que par ailleurs, je suis professeur de philosophie dans un lycée, et que ça m'est devenu de plus en plus compliqué d'avoir ce jeudi, parce que vous n'êtes pas sans savoir, hein, parmi vous, je sais qu'il y a des parents ou leurs petits-enfants qui ont des gens autour d'eux qui sont au lycée. Il y a une réforme en ce moment qui nous sollicite de plus en plus de temps au niveau du lycée, c'est-à-dire suivi individuel, en dehors des cours, je veux dire, de plus en plus de travaux, de plus en plus de travail, qui rend très difficile de plus en plus aux enseignants de se libérer une après-midi dans la semaine. Alors, un mercredi après-midi, il se trouve que le lycée est fermé, donc ça ne pose plus de problème, mais le jeudi après-midi, ça devenait très, très difficile. Ça voulait dire, soit on restait le jeudi après-midi et je ne pouvais plus garantir d'être avec Bernard pour assister à vos cours, à son cours, et puis participer un peu, soit en changeant proposé, l'UAD a dit que, apparemment, donc c'est plutôt la deuxième raison, apparemment, le mercredi après-midi, au niveau de la location de Westworld, à la limite, ça leur posait moins de problèmes le mercredi après-midi que le jeudi après-midi, donc l'un dans l'autre. Cela dit, on a fait envoyer très rapidement par mail, je pense que beaucoup, ceux qui ont Internet, évidemment, ceux qui habitent au fin fond de l'Ardèche, voilà, c'est autre chose, mais ceux qui ont Internet, parmi vous, eh bien, Monsieur Moustapha, comment allez-vous? Nous manquait notre mascotte, voilà, c'est arrivé. Bien. Oui, alors pour les nouveaux, Moustapha est notre assistant, qui est là pour relancer la discussion de temps en temps, discuter, et puis le micro, se faire passer le micro, etc. Il est indispensable. Alors, bien. Oui, alors ce que je voulais dire, simplement, voilà, j'espère, je m'excuse si, on s'excuse si jamais ça a causé des problèmes à certains. Apparemment, il y en a que ça n'arrangeait pas, mais il y en a d'autres qui m'ont contacté en disant que, moi ça m'arrange plus tôt, je pouvais pas y aller avant parce que c'était le jeudi, donc maintenant je peux venir. Voilà, donc, l'un dans l'autre, j'ai l'impression que tout le monde s'y retrouve à peu près. Et puis si l'année prochaine, l'éducation nationale fait comme c'était, moi j'ai vécu ça quand j'étais petit, c'était le jeudi après-midi, pas le mercredi après-midi, que le lycée était fermé, donc il faut aussi qu'il y ait encore des réformes, des relations. Voilà. J'ai vécu ça du collège, moi, c'était le jeudi après-midi, où on était bien. Donc, voilà pour le côté un peu, on va dire, calendrier. Au niveau du cours en général, là je m'adresse surtout aux personnes qui n'ont jamais assisté à ce cours et essayer d'expliquer un peu les choses, pourquoi nous sommes deux, qu'est-ce que nous on entend par philosophie générale, donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire ensemble, et donc, vous verrez à partir de ça, après évidemment notre cours sera un peu l'exemple de ce que je vais expliquer là. Tout d'abord dire que la philosophie, il y a un parti pris, on l'avoue, on joue au grand, il y a un parti pris, nous ne sommes pas d'accord, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on verra ça après dans le cours, évidemment, il peut y avoir des nuances entre nous, même parfois des discussions, mais il y a une chose sur laquelle on est d'accord, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de faire ce cours ensemble, pendant quelques années, ça remonte à 4 ans, je crois, quelques années. On est d'accord sur une chose, c'est que pour nous la philosophie n'est pas un savoir. N'est pas un savoir au sens d'une science, c'est-à-dire quelque chose où il y aura un savoir à transmettre sur quelque chose. Il n'y a pas de domaine qui serait propre à la philosophie et où ailleurs on ne pourrait pas en parler, par exemple. Donc la philosophie n'est pas un savoir au sens, c'est pas une théorie. Voilà. Pour nous, la philosophie est un savoir-faire, une pratique. C'est une manière d'aborder les choses, c'est une manière d'aborder les idées, c'est une manière d'essayer de comprendre et ce qui nous entoure et ce que nous faisons ou ce que nous sommes nous-mêmes. Mais en fin de compte, c'est plus une manière d'interroger les savoirs que une manière de produire un savoir. On n'est pas là pour produire un savoir en philosophie, c'est notre conception. Je rappelle que l'intitulé de ce cours, c'est philosophie générale, ce n'est pas histoire de la philosophie, ce n'est pas philosophie des sciences, par exemple. Non, c'est philosophie générale. Donc ce qu'on peut montrer dans ce cours, et c'est ça qu'on invite à faire à nos étudiants, c'est d'essayer, c'est plus qu'une introduction, c'est une initiation à la philosophie générale, c'est-à-dire à la pratique philosophique. C'est quoi faire de la philosophie? C'est interroger des discours, c'est interroger des jugements qu'on souvent emporte un peu, qui comporte un peu sans trop y réfléchir. Le travail qu'on fait ici est plus un travail d'interrogation, critique, de critique, mais critique pas au sens dénoncé, pas au sens négatif du terme. Critique vraiment le pour et le contre. On dit ça, un tel dit ça, un tel auteur dit ça, le tien, etc. D'ailleurs, on travaille très peu sur les auteurs, on verra, je vais dire un mot là-dessus. Hein. Pour ceux qui viendraient là, qui seraient nouveaux et qui viendraient avec leur souvenir de terminal, c'est très piège, qui viennent avec leur souvenir de terminal, où ils peuvent avoir l'impression que la philosophie, c'est des auteurs de Platon, de Socrate, de François Descartes, etc. Une suite d'auteurs, et où, au fond, le travail en philosophie consisterait à comprendre les auteurs sur la question qui peuvent nous préoccuper par ailleurs, mais surtout comprendre les auteurs. Ce n'est pas du tout notre parti pris. Ce n'est pas du tout sa faire de la philosophie générale, ce n'est pas du tout ce qu'on propose dans ce cours. Ce n'est pas un commentaire, on le propose très rarement. On peut parfois, parce qu'on distribue des textes, par exemple, là, vous avez distribué un texte à un grand anthropologue contemporain, une classe, peu importe, on verra après, on en parlera. Il peut nous arriver d'expliquer un texte, ou pourquoi pas d'expliquer un auteur, mais ce sera toujours parce qu'à ce moment-là, se pose une question, se pose un problème, et que la seule chose que peuvent nous apporter les auteurs, de notre point de vue, c'est le positif, hein. C'est à la limite, ils ont passé 10, 20, 30 ans, 40 ans à travailler sur une question, ça permet d'aller un peu plus vite, c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas plus passer 40 ans sur la question, si on peut avoir quelques arguments un peu plus rapides sur la question qui nous permettent, nous, d'aller un peu plus loin, pourquoi pas. Mais ce sera toujours, on vous demande de mettre la main à la pâte. On vous demande de réfléchir aux choses qu'on aborde. Donc c'est vrai qu'au niveau des prises de notes, par exemple, les moments où vous allez prendre des notes pour essayer de comprendre tel ou tel auteur sont assez rares en fin de compte. On n'est pas, ce serait un cours d'histoire de la philosophie, qui est autre chose. Un cours d'histoire de la philosophie, que fait-on dans un cours d'histoire de la philosophie? On apprend ce que des auteurs on peut dire sur tel ou tel problème. On ne traite pas soi-même les problèmes. Ou alors, si on les traite, c'est en dehors du cours. C'est-à-dire qu'après, à partir de ça, on peut réfléchir soi-même, etc. D'accord. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de réfléchir maintenant, dans ce cours. On ne va pas attendre de connaître les auteurs pour réfléchir. Et à la limite, on part du principe que sur les questions qui sont abordées en philosophie, nous sommes tous à égalité. Ce n'est pas parce que vous avez... c'est pas parce que quelqu'un a plus de connaissances livresques qu'un autre, mais on sait plus sur le sujet qu'il aborde. C'est-à-dire que nous, c'est essentiellement, lorsqu'on dit quelque chose, lorsqu'on pense quelque chose, peu importe que ce soit à travers un auteur ou pas, ce qui est important dans ce cours, c'est d'essayer de savoir pourquoi nous, on le dit. Quand je dis nous, c'est vous. Pourquoi on le dit? Et sorti de ce cours, s'il marche, ça c'est aux anciens à le dire, s'il marche, sorti de ce cours, ça ne veut pas dire qu'on en saura plus sur le thème abordé qu'on en savait, qu'on croyait en savoir au départ. Ça risque même d'être l'inverse, ça risque de se poser plus de questions qu'on s'en posait au départ. Mais peut-être que vous pourriez sortir de ce cours en ayant le sentiment d'en savoir un peu plus sur votre manière de juger les choses, ce qu'on appelle, ce que les anciens appelaient la maléfique, peu importe, mais c'est-à-dire cette idée qu'au fond, on va essayer d'échanger entre nous sur des thèmes, sur des questions, des problèmes, en essayant de, à travers, pourquoi pas, de temps en temps, quelques auteurs qui nous permettent d'aller un peu plus loin, un peu plus vite, mais c'est tout, ça va plus loin. Il ne s'agit pas de les annoncer, il s'agit de s'en servir, c'est tout. En essayant, eh bien, d'y voir, peut-être, sinon un peu plus clair sur le thème abordé, d'y voir un peu plus clair sur notre manière d'aborder ce thème. C'est ça, le savoir-faire, donc que nous, on désigne sous le sigle philosophie générale. Donc, voilà, là j'ai présenté ce qu'on entend nous par philosophie générale, donc c'est une pratique, donc on va pratiquer la philosophie dans ce sens-là. Alors, il se trouve que pour le faire, eh bien, on choisit chaque année un thème. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'examen, on ne ramasse pas de copie, il n'y a pas de, il y a rien à la clé, il n'y a pas de diplôme d'ailleurs dans cette université, donc nos propos ne se posent même pas. Même s'il n'y a pas ces choses-là, ce qu'on vous demande, c'est simplement peut-être de un peu participer, sinon même beaucoup. Parfois, il peut y avoir des cours où on est presque que dans le débat, même s'il y a des parties de présentation. En gros, alors là, c'est pour la présentation du contenu du cours. En gros, si vous voulez, on propose sur le thème ou la question qu'on est en train d'aborder, on propose, eh bien, une manière de l'aborder. Puis Bernard propose moi, et puis Bernard, ou l'inverse d'ailleurs, peu importe l'ordre, Bernard peut proposer une autre manière de l'aborder, mais en la suite de quoi? Donc il y a une heure, puisqu'il y a deux heures, il y a une heure où, là, ben, nous, on essaie de montrer une manière d'argumenter tout un tas de sujets, de manière différente, puisqu'on est deux. Et puisqu'il s'agit de discuter, il s'agit de réfléchir, ben, c'est mieux d'être deux, c'est pour ça que c'est un cours à deux. C'est mieux d'être deux, on y arrive mieux. De manière différente, ça nous permet aussi d'avoir deux formulations différentes. Souvent, Bernard peut faire une chose, puis je le reformule derrière, et, ou inversement. Pouvoir suivre de manière différente la même chose, ça peut être intéressant pour vous, hein, pour essayer de comprendre, rentrer dans les questions. Et donc, on va essayer d'avancer doucement en vous proposant des sortes d'étapes. On parlera tout à l'heure avec, en commentant la feuille, évidemment, le programme qu'on a prévu, doucement, avec quelques étapes. Pour le thème général, le pouvoir, cette année, il se trouve que c'est la question du pouvoir. On a dit d'ailleurs pouvoir, c'est pas le pouvoir, c'est pouvoir. Donc ça peut être le verbe pouvoir, comme ça peut être le pouvoir au sens politique, etc. Donc pour l'instant c'est le pouvoir. On a choisi ce thème, donc ça j'explique ça pour les nouveaux, à la fin de l'année dernière, en discutant un peu avec les gens qui étaient là, et on a proposé ça, et apparemment ça ne dérangeait pas les gens, c'était qu'est-ce que faire. Alors ça veut dire que d'une année sur l'autre, il n'y a pas de niveau. On reprend tout. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, on change le thème, mais j'ai envie de dire, puisque la philosophie, c'est pas le thème qui importe, c'est la manière dont on aborde le thème, peu importe le thème qu'on choisit. C'est vrai qu'il vaut mieux prendre, alors vous allez me dire, mais vois, on pourrait prendre un thème différent à chaque fois. Non, pour une raison simple. Il vaut mieux prendre un thème sur l'année, tout simplement parce que le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible dans cette réflexion, sur notre rapport au thème, sur notre manière d'aborder les thèmes. Et donc, se prendre du temps, si on changeait de thème à chaque fois, eh bien, on ne prendrait jamais le temps d'approfondir la manière dont on aborde les choses. Et on ne ferait pas notre travail. On ne pratiquerait pas vraiment la philosophie. En tout cas, dans notre sens. Donc, prendre un thème sur une année, c'est l'occasion pour nous, tranquillement, hein, on parle de ce que tout le monde pense, à peu près, dans la rue, puis on approfondit, alors les auteurs peuvent être utiles à un moment donné, et puis tranquillement, eh bien, on essaie d'approfondir, non pas le thème, même si évidemment, à force, on finit par approfondir le thème, mais c'est plus que le thème lui-même, par exemple, le pouvoir, peut-être qu'on n'en saura pas plus sur la question du pouvoir en fin d'année, par contre, on en saura sans doute plus sur nos différentes manières d'aborder la chose, sur nos différentes manières d'avoir tel ou tel rapport par rapport à ce qu'on appelle le pouvoir, etc. C'est là-dessus que va porter essentiellement notre travail. Quoi vous dire d'autre? J'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui est nouveau. Comment je pourrais le renseigner plus que ça? Oui, alors, sur la modalité du cours, je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous rappeler. Il y a, si vous voulez, grosso modo, un peu ce qu'on fait maintenant, là. La première heure, c'est plutôt une présentation. C'est peut-être une présentation de concept, d'abord, une présentation. Donc, ça peut ressembler parfois à un cours magistral. Il peut y avoir des échanges à ce moment-là. Et puis la deuxième heure, c'est jamais aussi mathématiquement, je suis d'accord. Hein, et puis la deuxième heure, très souvent, c'est un débat. Des fois, on inverse, on commence par un débat, une fin de présentation. Il peut arriver qu'on l'a fait souvent. Il y a deux choses que je rajouterais, vraiment pour les nouveaux. Il peut arriver qu'on projette des films, des documentaires sur tel ou tel thème. Allons voir. Je crois qu'année dernière, on avait projeté un film sur les neurosciences, il me semble, sur la neuroplasticité. Je ne sais pas si c'est. Là, ça se met. Puisqu'on a la chance d'avoir un rétroprojecteur, tout ce qu'il faut pour regarder des films, de temps en temps ça peut nous arriver, trois quarts d'heure, une heure, puis après on en débat. Ce qui peut arriver aussi, alors cette année ça se fera aussi, mais pour l'instant on ne peut pas dire qu'il soit, on verra ça en cours d'année, au moment où les problèmes se poseront. Très souvent on fait intervenir des gens extérieurs, des spécialistes, par exemple, il y a des neurologues. Il y a eu un prêtre aussi qui est venu nous présenter son expérience de la foi, parce qu'on a eu une année sur connaissance et croyance. On s'est dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un prêtre qui, non pas qui vienne nous faire la messe, évidemment, c'est pas trop beau, mais plutôt qui nous parle de son expérience de prêtre, d'homme de foi, c'est quoi la foi. Qui nous parle de cette expérience, de son témoignage, et qu'on puisse en débattre, en discuter, le comparer par exemple à la manière dont on aborde les choses en science, etc. Donc il peut avoir comme ça, des intervenants, très souvent, deux ou trois, on va dire, dans l'année. On dira à quel moment, très précisément, lorsqu'on aura les intervenants, puis sur quoi, surtout, il faut déterminer les choses. Sachant que nous, le cours n'est pas totalement, il est prêt là, hein, pour l'année, puisqu'on a, Vous avez vu, il y a une sorte de planning, il y a des notions. Mais il est globalement prêt. Je ne vous attendez pas à un cours où tout est prêt à l'avance. C'est que nous, on aime bien aussi vous entendre, on aime bien aussi dans les débats, on prend quelques notes dans notre tête, hein, même si on ne les prend pas comme ça, on en discute très souvent après et on construit notre cours. On joue le jeu. La philosophie est un savoir-faire, ça doit se construire au jour le jour. C'est, si on prévoit trop à l'avance, c'est une sorte de manipulation quelque part. Donc non, on joue le jeu, il peut arriver qu'on soit obligé de bifurquer, que ce qui a été énoncé, ben, on soit obligé à un moment donné de faire autre chose. Ça va dépendre de la discussion qu'on aura aussi. Voilà. Donc essentiellement une pratique philosophique. C'est ça le fond qu'il faut garder, je crois, pour les nouveaux, c'est une initiation à l'acte philosophique. Ce n'est pas une présentation des philosophes à la manière trop souvent en terminale, on le voit dans les cours de terminale. Ça devrait être ça en terminale, hein, mais le programme est tel que très souvent ça touche quand même un peu à l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire à présenter des auteurs et essayer de se détacher des auteurs. Voilà. Si vous avez des questions éventuellement. Et après, ben, je laisse la parole à Bernard Journeau. Oui, je ne me suis pas présenté, pardon. Je suis donc Didier Mignard, je suis professeur de philosophie à Grenoble, et Bernard Journeau, qui est barman à Grenoble. Donc, avant d'essayer de parler maintenant, je vais vous présenter le thème, le pouvoir. Ben, si vous avez des questions, vous voulez des précisions sur le cours en général, Mustapha. Oh. Ah, d'habitude, il attend la fin. Je m'inquiète un peu. Oui.
Je viens de dire qu'à l'université, il n'y a pas d'examen.
Non, j'ai dit qu'à l'université interagent dans le cadre de ce cours, il n'y aura pas d'examen.
Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de diplôme.
Non.
Sans examen, sans diplôme, est-ce pouvoir sans pouvoir?
Je te remercie, ça introduit vraiment la. Donc on va y réfléchir, on a un an pour te répondre. Hein.
La réponse viendra à la dernière séance.
Voilà. Sois patient. Est-ce qu'il y a des questions sur l'aspect général? Administrative.
Bien.
Bien.
On y va. Oui, donc, cette année, on va s'attaquer à la notion de pouvoir, puisque c'est le thème qui, bien évidemment, très démocratiquement, l'an dernier, avait été choisi. Très démocratiquement, parce que on ne fait rien maintenant que très démocratiquement. C'est évident. Alors, eh bien, on va précisément, par rapport à cette notion de pouvoir, on va appliquer notre méthode qui est d'essayer de voir d'abord, je suis sûr que si je vous interroge, qu'est-ce que c'est que pouvoir, vous allez tous spontanément avoir une petite idée à exprimer. Or, c'est cette petite idée à exprimer, eh bien, qu'on va interroger. On va interroger. Compte tenu que dans la foulée de ce qu'a dit Didier, eh bien notre travail consiste toujours à interroger les évidences. Et donc, voilà. Donc il y a une première identification qui vient spontanément à l'esprit, qui est venue d'ailleurs l'année dernière quand on a proposé ce thème-là. C'est que, on dénotait chez certains une réaction un peu négative. Oh, pouvoir, on va parler politique. Donc, pouvoir égale politique égale État. Eh bien, cette identification n'est peut-être pas évidente. Il n'est pas évident que le pouvoir soit le politique Ou alors, dans quel sens? Et il est encore moins évident que le politique soit l'État. Donc c'est cela que nous allons interroger. Alors vous avez au début de la feuille là, qu'on vous a distribuée, on va commencer par le plus simple. C'est pouvoir, le verbe pouvoir. Je peux, je ne peux pas. Et donc le premier sens du haut pouvoir, qui va me renvoyer à ma propre personnalité, c'est ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Et est-ce que je peux faire quelque chose? L'an dernier, on a travaillé toute l'année sur qu'est-ce que faire et pourquoi faire. Et si je fais quelque chose, c'est que je peux le faire. J'ai une certaine capacité à faire. Et cette capacité à faire est plus ou moins étendue selon un certain nombre de critères, selon un certain nombre de conditions. Donc dans un premier temps, eh bien, on essaiera de voir ces conditions qui font que j'ai une capacité ou que je n'ai pas une capacité à faire. Et que cette capacité à faire, eh bien, détermine, selon qu'elle est plus ou moins importante, le champ de possibilités, pareil, possibilités, pouvoirs, qui me sont offerts, dans lesquels j'apprends, je peux intervenir. Bien. Donc on va partir de là. Ça nous occupera, en gros, Didier vous détaillera plus précisément l'organigramme qu'on propose pour l'année, ça nous occupera une ou deux séances. Parce que ça paraît simple de faire l'analyse des conditions qui me permettent de pouvoir faire. Mais il y a une petite difficulté qu'on rencontrera assez vite et qui fait que ça n'est peut-être pas si simple que ça. Et que quand j'ai fait l'inventaire de toutes les conditions auxquelles je pense qui déterminent ma capacité à faire, il y en a une que j'ai oubliée parce que je n'y pense pas et qui est en fait fondamental. Alors, comme il faut bien garder du suspense, sinon on n'a rien à dire, hein, donc je ne vous dirai pas laquelle aujourd'hui. Nous verrons ça plus tard. Si vous voulez savoir, venir. Bien. Bon. Par contre, en étudiant ces conditions, je vais tout de suite à rencontrer le deuxième sens du mot pouvoir. C'est que si je me considère tout seul, eh bien j'ai une capacité à faire, donc j'ai au sens propre du terme une certaine force, mais mon voisin aussi. Et tout un chacun aussi. Et que ces différentes forces, eh bien, vivent ensemble. Et comment sont structurées ces différentes forces? Est-ce qu'elles fonctionnent n'importe comment? Est-ce qu'elles peuvent fonctionner n'importe comment? Ou bien, est-ce que, dès lors que j'ai plusieurs forces en présence, eh bien, se pose le problème du rapport de force, du rapport entre les forces. Alors, quand on parle de rapport de force, tout de suite, on pense à la violence. Il ne s'agit pas de ça, pour le moment. Je ne suis pas violent. Mais je vis au milieu d'autres personnes, et même si je vis en très bonne intelligence, eh bien, ce sont des forces différentes, et que le problème de leur rapport entre elles se pose. Et là, on arrive au deuxième sens du mot pouvoir, c'est que le pouvoir, de manière plus fondamentale, eh bien, c'est le mode d'organisation de ces rapports de force. Mais que ce mode d'organisation de ce rapport de force, bon, ça implique qu'il y a toujours un mode d'organisation. Qu'il soit explicite, qu'il soit implicite, qu'il soit connu, qu'il ne soit pas connu, mais dès lors que plusieurs personnes se trouvent ensemble, et il y a toujours plusieurs personnes ensemble, parce qu'un individu seul, ça n'existe pas. D'où, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, qu'en essayant de déterminer les conditions de mon aptitude à, de ma capacité à, eh bien tout de suite, j'arrive à autrui. Et que autrui, eh bien, fait partie des conditions de mon pouvoir personnel. Tout autant d'ailleurs que je fais partie des conditions de son pouvoir. Et que dès lors, la façon dont ça fonctionne ne peut pas être n'importe quoi. Et que ce mode selon lequel le rapport entre ces forces s'établit, eh bien, c'est le deuxième sens du mot pouvoir. Alors, déjà, on voit que si le pouvoir, au deuxième sens du mot, c'est cela, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus large que j'appelle le pouvoir politique et le pouvoir d'État. C'est-à-dire que ce à quoi je pense spontanément comme étant le pouvoir n'est qu'une manifestation particulière, à un niveau particulier, de cette nécessité. Dès lors que je me trouve face à un groupe social, eh bien, l'organisation de leur rapport de force se pose. Il peut s'organiser en État, mais il n'est pas évident, un, que même au niveau d'une société globale comme la nôtre, ce soit une nécessité universelle. Peut-être y a-t-il des sociétés sans État. Et s'il y a des sociétés sans État, eh bien, cela montre, non pas qu'il faille que nous fassions comme elles, et que la solution qu'elles ont prise pour organiser le rapport de force entre les éléments qui les constituent, eh bien, serait valable pour nous. Mais cela prouve, par contre, que la forme particulière que, chez nous, l'organisation de ces rapports de force a pris, n'est pas une nécessité inéluctable qui tient à la nature humaine, c'est une forme d'organisation particulière dont il faut expliquer le mode de fonctionnement et l'organisation en fonction de données contingentes, historiques, et c'est tout autre chose. En plus, Eh bien, il y a de nombreux niveaux où ce pouvoir se joue. Parce que le pouvoir, peut-être, ne se joue-t-il pas principalement lors des élections dans notre pays. Il y a de nombreux niveaux sous-jacents où il y a des rapports de pouvoir et que peut-être, finalement, il n'y a aucune rencontre entre un groupe d'hommes où ces rapports de pouvoir, eh bien, seraient absents. D'où, dans la famille, à l'école, dans les associations, dans les partis, dans les églises, mais entre deux personnes, dans des rapports affectifs, peut-être que ces rapports de pouvoir sont déjà là. Que la façon dont deux forces ensemble fonctionnent met en œuvre un rapport de pouvoir. Dès lors que deux forces, et à plus forte raison s'il y en a plusieurs, sont en présence, le problème de leur rapport de force se pose. Et donc, le problème du pouvoir se pose. Et dans cette assemblée, il est très vraisemblable, il est même inévitable, que des rapports de pouvoir s'exercent. Il y a entre nous des rapports de pouvoir. Alors, ceci nous amènera à remettre en cause un certain nombre d'évidences, parce que le pouvoir, c'est la violence. Le pouvoir, c'est la domination. Le pouvoir, c'est... Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui, pour nous, sont à l'évidence les caractéristiques du pouvoir. Alors, de deux choses l'une, ou ceci est vrai, et donc tout à l'heure j'ai dit une bêtise en disant que dans toute rencontre, dans tout groupe humain, il y a des rapports de pouvoir. Parce que là, je ne suis pas violent, ou apparemment, pour ceux qui ne sont pas endormis, je ne suis pas non plus violent. Bien, donc n'y a-t-il aucun rapport de pouvoir dans la famille? On verra, dans la famille, il y a bien des rapports de pouvoir. Est-ce que ce sont des rapports de domination? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Mais est-ce que ça l'est inévitablement? Est-ce qu'il y a des rapports de violence? Ça peut l'être, mais est-ce que ça l'est inévitablement? Donc, la différence entre ça peut l'être et puis ça l'est inévitablement, c'est que si ça l'est inévitablement, bon, ben, le pouvoir, c'est ça. Mais si c'est simplement ça peut l'être, eh bien, il faut voir pourquoi, dans certains cas, ça l'est. Alors que dans d'autres cas, ça ne l'est pas. Donc, la caractéristique du pouvoir en tant que tel, du rapport de pouvoir, n'est pas forcément la violence ni la domination. Donc, on aura comme ça un certain nombre d'évidences, eh bien, à analyser, à voir. Est-ce que l'autorité, c'est la même chose que la domination ? Que c'est la même chose. Bon. Et alors nous aurons aussi au cours de l'année à essayer de voir justement ces lieux de pouvoir. On en étudiera quelques-uns parce qu'ils sont multiples. Mais donc quelques principaux. Non pas les lieux du pouvoir, mais les lieux de pouvoir, là où du pouvoir s'exerce. Du pouvoir est à l'œuvre, si vous voulez. Bien. Donc ça, c'est le deuxième sens du mot pouvoir. Et bien, puis qu'est-ce qu'il y a deux sens? Et bien, après, c'est un rapport entre les deux. Qu'on essaiera de voir. Et que... Qu'est-ce qui détermine l'un et qu'est-ce qui détermine l'autre? Voilà. Est-ce que mon aptitude, en quoi est-elle ma capacité à? En quoi est-elle favorisée, brimée, anéantie, si vous voulez, par le deuxième sens du mot pouvoir? Ce deuxième sens du mot pouvoir, lorsqu'il se manifeste sous la forme d'un détenteur du pouvoir, et lorsqu'il se manifeste sous la forme d'un rapport de domination et d'un rapport de violence, ce qui existe, qui n'est pas forcément la spécificité de tout pouvoir, mais qui est le cas de certains pouvoirs. Ben, d'où tient ce pouvoir? Ceux qui étaient là l'an dernier, on a fait référence au livre de la Boétie, le discours sur la servitude volontaire. D'où vient le pouvoir du tyran? Le pouvoir du tyran ne s'appuie-t-il pas parfois sur le désir de domination? C'est-à-dire que la domination, un peu comme certains... Parfois on rencontre ça, c'est des gens qui sont malades. Il y a ce qu'on appelle le privilège de la maladie. La maladie a une chose particulière, c'est qu'elle vous situe à part. Et au moins, vous pouvez avoir l'impression d'être quelqu'un. On s'occupe de vous, déjà, pendant que vous êtes malade. Alors que quand vous ne l'êtes pas, vous êtes un parmi beaucoup d'autres. Donc quelque part, il y a une certaine jouissance à être malade. Et même qu'il y a une certaine jouissance à parler de sa maladie. Non seulement on est malade, mais on est, alors faut pas le dire, mais entre guillemets, content d'avoir quelque chose à dire. Quand je rencontre quelqu'un, au moins je peux parler de ma maladie. Qu'autrement, je ne sais pas de quoi dire. Hein? Et donc je parle de ma maladie. Ça remplit le vide, vu que la nature a horreur du vide, et que moi aussi parfois, parce que je suis pris de vertige, eh bien au moins là j'ai de quoi occuper mon temps, et occuper le rapport avec autrui. Bien. Eh bien, de la même manière, peut-être y a-t-il aussi un privilège de la domination. Il y a une jouissance de la domination pour celui qui domine, mais peut-être d'avoir spontanément dit non, mais peut-être est-ce moins simple que ça. Donc il faudra aller voir de plus près ce qu'en disent les psychologues, ces gens-là. Peut-être y a-t-il un privilège aussi d'être dominé. Et que le pouvoir des tyrans repose peut-être sur, pas uniquement, mais repose peut-être aussi sur le désir d'être dominé. C'est ce que nous dit la Boétie. La Boétie, contemporain de Montaigne, hein, c'est un ami de Montaigne. Donc, c'est pas d'hier. Hein. Et mais comment se fait-il qu'un homme puisse asservir tout un peuple D'où ça vient? Alors, la Boétie fait peut-être une erreur. C'est qu'un tyran n'est jamais tout seul. Donc le rapport n'est pas entre un homme et un peuple. Il n'y a pas le peuple d'un côté et puis un homme de l'autre côté. Du peuple, il y a une grande partie qui doit soutenir le tyran, sinon effectivement il ne tiendrait pas. Mais bon, donc, pourquoi? Et donc ce sera des thèmes qu'on verra, résistance ou consentement, hein, par rapport à ça. Donc nous serons amenés aussi à voir ces rapports entre ce pouvoir comme mode d'organisation des rapports de force, et puis cette aptitude. Et quand on aura vu tout ça, eh bien on sera à la fin de l'année. Et donc, eh bien, peut-être qu'on pourra répondre à Mustapha à la question qu'il a posée tout à l'heure. Voilà. Est-ce que ça vous donne envie de continuer? Hein? Est-ce que ça vous paraît clair, cette présentation? Ça s'éclaircira par la suite, hein? Ça s'éclaircira par la suite. Faites-y mettre ta pièce. Faites-y mettre ta pièce. Bien. Mais s'il n'y a pas de questions, alors à ce moment-là, Didier, tu présentes un peu.
Oui,
ce thème-là, donc on l'a.
Commenter un peu la feuille.
Hein?
Commenter un peu la feuille, simplement, quand vous avez distribué pour mettre en bouche, vous avez un peu de la bouche, donc vous avez reformulé au fond, vous avez simplement peut-être reformulé ce qu'il y en a en avançant. Donc, je disais tout à l'heure, peut-être que ça peut être bien pour vous aussi d'avoir deux personnes différentes.
Pas plus fort, pas plus fort.
Articulé.
Pas plus fort, Didier. Fâche-toi un peu.
Alors, pour information. Mais c'est que je ne voulais pas réveiller ceux qui sont au fond. Alors, pour information. Simplement, je ne vais pas commenter mot à mot, hein, philosophie générale, cours, du, etc. Non, mais simplement, on vous a mis une adresse internet. C'est simplement parce qu'il y a un étudiant qui, en fait, enregistre ses cours. Pas toujours, parce qu'il ne peut pas, c'est des problèmes de matériel, et puis bon, pas toujours possible, mais la plupart des cours, on va dire, grosso modo, les deux tiers, parfois même les trois quarts, certaines années, depuis le début qu'on a fait de la philosophie générale, sont sur Internet. Alors, vous n'avez pas d'image, mais vous avez par contre le son, c'est-à-dire les débats qu'on a eus. C'était le premier thème qu'on avait choisi, puisqu'on a dit, ben, on a un cours de philosophie à faire. Pour tout le monde, quand on demande à quelqu'un, c'est quoi? Ben, c'est penser parce qu'on s'est dit, allez, qu'est-ce que penser? C'était le premier, qu'est-ce que penser? On était parti de ça. Donc, je ne vais pas refaire tous les cours qu'on a fait depuis, mais. Donc si vous voulez avoir une idée plus précise, je parle surtout à ceux-là qui sont nouveaux, ben, vous pouvez aller sur Internet, sur ce site-là, et gratuitement, vous pouvez télécharger, hein, c'est gratuit, vous pouvez télécharger les cours de chaque année, et même se spécifier chaque cours, les thèmes, etc. Voilà. Ça, c'est simplement oui, pour vous expliquer pourquoi il y avait cette adresse Internet. Je la mettrai à chaque fois parce que souvent, beaucoup viennent me voir après en disant ben, « j'ai tapé, mais ça ne ressort pas ». Moi, l'adresse que j'ai mis là, je n'ai pas tapé moi, j'ai fait un copier-coller. Lorsque j'ai vu apparaître le site, j'ai mis en haut, vous savez, copier-coller, je l'ai mis peut-être que comme ça, on est sûr que c'est la bonne. Voilà. Alors copier-coller, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, c'est simplement en... Mais je plaisante, mais moi j'ai mis 2 ans à comprendre comment ça marche. Donc, oui, j'aimerais revenir un peu sur tout ce qu'a dit Bernard, mais d'une manière peut-être plus succincte, évidemment moins développée, mais simplement pour que vous commentez un peu la page. Est-ce que l'idée de départ, c'est que peut-être que pour réfléchir sur la notion de pouvoir, sur le pouvoir, tout simplement, peut-être que ça pourrait être intéressant. Il y a deux choses qui sont intéressantes. D'une part, si c'est une notion philosophique, c'est qu'elle a sans doute une ambiguïté, un sens qui ne va pas de soi, donc il y a peut-être plusieurs sens. Donc nous, notre travail, ça a été de déterminer les deux sens, parce qu'il y en a plusieurs d'autres sans doute, mais les deux sens qu'on pourrait mettre en discussion, qui permettraient de commencer à discuter, à réfléchir. Donc là, je reformule un peu ce que vous avez sous les yeux. Ce qu'on a vu le premier, on va commencer assez rapidement, hein, en même temps je commence un peu le calendrier, hein, vous devez avoir sous les yeux. Le 10 et le 24 novembre, donc dans un mois, et puis juste avant les vacances de Noël, on travaillera sur le premier sens. Le pouvoir comme aptitude, comme capacité de. Où là, évidemment, c'est sans doute la plupart du temps la manière dont on ressent nous, ce qu'on peut faire ou pas en tant qu'individu, le pouvoir que nous avons ou pas. Alors pour les anciens, évidemment, tout ça, ça doit les interpeller, puisqu'on avait parlé de liberté, de devoir vivre, de choses comme ça. Ça risque de réapparaître un peu dans ce cours-là, hein, on s'en excuse, mais on va peut-être le voir différemment aussi. C'est-à-dire le sentiment que nous avons ou non de pouvoir faire des choses, non seulement en tant que pouvoir le faire, c'est-à-dire comme au sens un peu de capacité A, effectivement, capacité 2, mais au sens je pourrais être la cause de ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas, mais aussi au sens, évidemment, des limites. On ne peut pas toujours, Bernard parlait des malades, quand on est malade, on ressent des limites, on ne peut plus peut-être faire ce qu'on faisait lorsqu'on n'était pas malade. Alors Bernard dit, évidemment, il a retapé sur les malades, hein. Il dit, ils sont malades, et en plus, il faudrait avoir de la compassion, il ne faut pas exagérer. Mais, ça peut être une compensation, c'est-à-dire le fait de ne pas, parce que là, je trouve que ce exemple est un peu caricatural, le fait d'être malade, moi-même j'ai déjà été malade, pas très malade, mais malade, et quand j'analyse un peu la chose, parce que je me rappelle ce que je disais à ce moment-là, oui, bien sûr, il y a un peu ce que tu dis, c'est pas désagréable qu'on s'occupe de vous quand vous êtes malade, évidemment. Mais il y a aussi peut-être une sorte de compensation, c'est-à-dire que ce sentiment de pouvoir faire certaines choses, quelque part, est compensé par autre chose, évidemment. Hein. Donc il n'y a rien là-dedans, mais il ne faut pas y voir un jugement moral, évidemment. Hein. Non seulement lorsque vous êtes malade, vous avez le droit de vous plaindre, mais vous devez vous plaindre. Bien. Donc ça va nous préoccuper. Je ne suis pas sûr qu'on va parler que des malades tout le temps, mais ça va nous préoccuper. Ça va nous préoccuper un certain temps. Ça va. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser, pourquoi pas inviter un grand malade. Voilà. Alors ensuite, à la suite de quoi? Évidemment, après on reviendra à quelque chose de plus normal, voilà, plus simple, je cherche le plus simple. Donc, ce qu'on propose, parce qu'on a vu ça c'est l'expérience des cours précédents, des années précédentes, on s'est aperçu qu'on avait besoin parfois de souffler, de faire une pause, parce que si on va trop vite, trop vite, trop loin, c'est-à-dire on finit par perdre de plus d'où on partait au départ, eh bien, l'idée de départ, parce que c'est approfondir la manière dont on aborde les choses, il ne faut pas perdre de but de ce qu'on a fait au départ. Donc, d'où un bilan, à la suite de quoi, le 8 décembre, puisque c'est juste avant les vacances de Noël, hein, on vous propose un petit bilan. Un petit bilan, ça veut dire, ça peut être un débat, ça peut être un film, ça peut être, c'est-à-dire que sur tout ce qu'on a vu, là, c'est le premier sens, le pouvoir comme aptitude, etc., capacité à faire, comme sentiment d'être libre, d'être limité parfois aussi. Très bien, eh bien, on va faire un bilan de 2 heures, pourquoi pas, à ce moment-là, on a déjà une idée, peut-être un film, on verra, où on commence à être sûr, avant de continuer, parce que tout s'enchaîne évidemment, puisqu'on approfondit les choses, avant de continuer, s'assurer qu'on s'est bien compris sur la première partie. Ça vous va? J'ai envie de dire premier trimestre, petit 1, le pouvoir correctif. Voilà. Ensuite, on passera, alors sans doute le bilan sera l'occasion de faire la transition entre cette première période sur le petit A, le pouvoir comme aptitude, et puis la deuxième période, qui va être tout le reste, qu'on va diviser en deux temps, je vais expliquer, en deux temps, avec un bilan aussi en mars, donc il y aura une coupure. Tout le reste, à savoir ce dont parlait Bernard, le fameux deuxième sens, on en parlera tout à l'heure, on parlera un peu du texte de Place. On a choisi le texte de Place, c'est parce qu'il nous semble que Place, qui est un anthropologue des années 70, peut-être que certains d'entre vous, anciens 68 ans, le connaissent, hein, il est parti du courant, voilà, des révolutionnaires, archiviste, etc., mais anthropologue, scientifique, qui étudiait un peu le comme les autres, grande culture, et qui a ramené dans ses travaux des choses pas inintéressantes dans le champ de pouvoir. On essaiera de clarifier tout à la fin de ce cours. Voilà, l'idée principale, l'hypothèse sur laquelle on pourrait travailler, qui paraît intéressante en tant que philosophie. Donc, une fois ce bilan, qui est une sorte de transition, l'année prochaine, donc, puisque après il y aura les vacances de Noël, donc on se retrouve en 2011, et bon, normalement 2011 c'est bon, puisque la fin du monde c'est le 21 décembre 2012, donc on a un peu de temps. Donc là on a un an devant nous. Je me souviens, on avait fait un cours hein, sur la fin du monde, et on avait fait même un cours avant que ça soit négatif, puisque on s'était posé la question à ce moment-là. Donc on attend, on verra. Alors. On n'a pas eu la réponse, hein, dans le cours. On ne savait pas si ça allait être la fin du monde ou pas. On ne sait pas. Donc, le 5 et le 19 janvier, vous voyez, c'est des cours en deux fois, à chaque fois. Hein, la deuxième période qui va du premier au deuxième bilan, ce qu'on vous propose, Bernard en a parlé à un moment donné, hein, c'était la fin de son exposé, il l'a très bien dit, donc simplement je reformule. Très bien, il y a un deuxième sens. C'est que le sens qu'on lui donne dans la vie quotidienne n'est pas le seul sens possible de ce qu'on appelle pouvoir. Très bien. Mais avant de parler complètement de ce qui n'est pas simple, qui est, on va voir, pas simple. Pas simple à exposer, pas simple à essayer de comprendre, mais surtout pas simple à discuter. Donc, pour préparer ce terrain, on propose une première période où, pour s'y introduire dans ce deuxième sens, on va essayer de remettre en cause un certain nombre. La philosophie, c'est quoi? Je disais, c'est un savoir-faire. C'est savoir peut-être s'interroger sur les choses qui nous paraissent les plus évidentes. Donc, dans un premier temps, faut-il encore clarifier, faut-il encore poser ce qui nous paraît le plus évident? Et comme ça nous paraît évident, ben on ne le pose jamais. Hein. C'est qu'on parle de ces évidences pour discuter, pour vivre, etc., mais on ne le pose jamais. Donc, dans un premier temps, posons les choses qui nous paraissent les plus évidentes. Dans nos sociétés occidentales, là, ça renvoie au fait de Place, dans nos sociétés occidentales, c'est tellement évident que la politique, c'est le pouvoir. C'est tellement évident qu'il y a un lieu comme ça, privilégié, que dès qu'on parle pouvoir, on pense politique, etc. Donc, dès qu'on parle, et si on analyse la chose, dès qu'on parle pouvoir, on pense autorité, on pense domination, etc. Et comme c'est précisément ce qui n'est pas évident, ce qui est évident pour un occidental n'est pas évident partout sur Terre, donc ce n'est pas si évident que ça. Donc, allons voir, d'abord dans un premier temps, posons nos évidences à nous sur la table, et allons voir comment elles fonctionnent, d'où elles viennent, est-ce qu'elles tiennent, est-ce qu'elles ne tiennent pas, etc. D'où quelques évidences, il y en avait plein, hein. On a eu beaucoup de mal à les classer et à essayer de trouver des intitulés qui nous permettent de faire un peu le tour. Il y a énormément d'évidences sur la question du pouvoir. Alors on a essayé de les classer et on est tombé sur deux pôles. Donc voilà, là je vous explique les cours du 5 et 19 janvier d'une part et les cours du 2 et 16 février d'autre part. C'est comme deux versants. D'un côté, la notion de pouvoir est naturellement liée lorsqu'on y est confronté à l'autorité et la domination, c'est-à-dire, on verra, très souvent, les exemples se trouvent plutôt dans la politique qu'ailleurs, mais on verra que ce n'est pas si simple. Autorité et domination. Bernard donne l'exemple. Non, je parlais de ça après, c'est trop compliqué. 2 et le 16 février, résistance consentant. J'ai envie de dire autorité et domination, c'est le point de vue pour nous de celui qui exerce le pouvoir, en quelque sorte. Et puis, résistance et consentement, c'est plutôt le point de vue de celui sur lequel s'exerce le pouvoir. Dans quelle mesure je résiste à ce que je prends pour une autorité ou ce que je crois qui me domine, ou au contraire, j'y consens. Avec, effectivement, je m'excuse pour les niveaux, mais les textes sont là, je voulais récupérer. L'année dernière, effectivement, on avait fait intervenir M. Bajas, je crois, grand sociologue de l'Université de Grenoble, qui était venu intervenir sur la notion de liberté libre arbitre, qui avait parlé de cette chose-là et qui avait donné un texte de l'abolition sur la servitude volontaire. Et on avait parlé d'ailleurs, entre autres, à ce moment-là, donc on y reviendra parce que c'est, je crois que c'était demandé, les échanges de 1000 grammes, qui avaient à ce moment-là, c'était dans l'actualité. Voilà, c'est-à-dire, échanges de 1000 grammes, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que des choses complètement aberrantes qu'on demande à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Comment on arrive là? Comment s'exerce? Parce que là, c'est plus celui qui exerce le pouvoir qui est un problème, c'est celui sur qui s'exerce le pouvoir qui est un problème. Ces évidences, mais nous on va les prendre comme des évidences, c'est notre manière occidentale de traiter la notion de pouvoir. On va essayer de les remettre en cause. Alors, résistance et consentement, c'est ce que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Bernard donne l'exemple de la notion de consentement, parce qu'on a eu une discussion avec Bernard là-dessus, c'était autre chose au départ. Mais on a réussi, on s'est mis d'accord sur le consentement, on ne savait pas trop quoi opposer à la résistance. La notion de résistance, alors évidemment, résistance, on pense tout de suite aux résistants, etc. Alors, pourquoi pas? À ce moment-là, on peut très bien intervenir un résistant qui nous parle de son point de vue, c'est quoi la résistance? On verra. C'est quoi donc le pouvoir, de son point de vue? Le consentement, mais en fait, parce que le consentement, c'est pas les malades, en fait, qui me semble, Bernard a pris les malades. Il semble ici que ça pourrait être intéressant, c'est dans l'air du temps. Je veux dire, mais là, c'est au niveau philosophique, dans les recherches, et là, la recherche pour la philosophie contemporaine. Donc, pourquoi pas, ça vous permet d'avoir quelques clés dans la philosophie contemporaine. C'est les femmes. Pas les malades, mais les femmes. Pire, hein. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui le concept de consentement qui est essentiellement dans la philosophie contemporaine, je pense à Fraisse par exemple, dans la philosophie contemporaine, essentiellement d'un mouvement qui est né, où on fait de la psycho, de la socio, de la philosophie, voire de la métaphysique, pour essayer de comprendre cette longue domination de l'histoire qui a été créée, la domination des hommes sur les femmes. Et donc, ça pourrait être intéressant, peut-être, à titre d'exemple, pour éclairer. Et puis, comme il y a à peu près pas moitié, mais il y a quand même des femmes et des hommes, je pense qu'on pourrait avoir des débats intéressants sur la question. Des rapports de force pour nous sont pas sinon, évidemment. Voilà, c'est pour vous donner un peu la manière dont on a choisi les thèmes, comme ça vous savez à peu près. Mais je reviens au point de départ, attention, je dis ça, après je vais finir de commenter, mais je dis ça. Bon, on a travaillé un peu là-dessus, les livres que vous avez en bas, c'est les livres sur lesquels on s'est appuyé, on a fait quelques recherches, puis on lit encore des choses aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, c'est pour se mettre en route. Si en cours de route, dans les débats qu'on a, autre chose apparaît, et franchement on s'est trompé, on s'y prendra autrement. On est en philosophie générale. On n'est pas en histoire de philosophie. Ensuite, très bien, mais une fois qu'on a remis en cause notre façon occidentale d'aborder la question du pouvoir, allons voir. Si on remet en cause, ça veut dire qu'on devrait être en mesure, normalement, de pouvoir proposer une autre façon d'aborder le pouvoir, le concept de pouvoir. Quelle serait-elle, cette autre façon? Et donc, les derniers cours, après le deuxième bilan, qui est le 16 mars 2011, puisqu'il y a le 30 mars, on commencerait un ensemble de binômes, un peu comme la remise en cause, un ensemble de binômes, pouvoir et parole, pouvoir et savoir, pouvoir et transparence, qui sont en fait les mots parole, savoir, transparence, qui sont en fait dans les manières de remettre en cause notre conception occidentale du pouvoir, la notion de pouvoir, qui sont en fait ce qui réapparaît le plus. Donc ça peut être intéressant d'aller voir. Si je prends un exemple pour vous donner à peu près, prenez pouvoir et parole, par exemple, les sociétés dans lesquelles il y a bien du pouvoir, mais pendant très longtemps, c'est des sociétés en Occident qu'on a très vite dominées parce qu'on ne voyait pas où était le pouvoir, on ne voyait pas d'État, on ne voyait pas de chef. On s'aperçoit aujourd'hui que ce sont des sociétés où, en fin de compte, il y a bien du pouvoir, mais il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de domination, donc c'est très étrange pour nous. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de domination. Par contre, ce qui joue le rôle du pouvoir, c'est la parole. C'est-à-dire que celui qui tient lieu de pouvoir, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, les autres parlent moins, et on se fout beaucoup, enfin, on se moque beaucoup de lui. Donc c'est très intéressant d'aller voir comment le pouvoir s'organise sur des sociétés qui ne sont pas les nôtres, et quelle représentation ces sociétés-là, pardon, ont du pouvoir, pour pouvoir discuter, comparer les autres. Ça va? Je vais donner un exemple pour vous montrer comment ça marche, mais il y en a bien d'autres. Là, sur le savoir, c'est pas mal non plus, la transparence, etc. C'est-à-dire que on aimerait terminer l'année, ce sera l'objet du bilan. Alors le bilan du cours, on était d'accord pour les habitués, mais pour les autres, je le dis, le 25 mai, ce sera à la fois le bilan du cours, on était d'accord, mais ce sera en même temps commencer à réfléchir sur quoi on pourrait repartir en 2012. Sachant que c'est la dernière année, puisqu'après, c'est un moment important. On aura donc qu'un trimestre. Hein. C'est peur. Hein. Voilà, alors est-ce que vous avez des questions? Là, c'était vraiment la présentation générale du cours. C'est vrai que l'année dernière, on n'avait pas procédé de cette manière, on avait commencé un peu plus rapidement, on s'est dit, bah, tiens, on va leur dire comment on a fabriqué le cours. Comme ça, on va y aller. D'accord? Oui? Sans doute. Oui, non, mais ça, à un moment donné, on y a pensé, vous voyez. On a hésité, on a fait une idée, mais sans doute, on aura l'occasion de toute façon de l'aborder. Même si ce n'est pas un thème général à un moment donné, forcément, notre rapport à l'argent, là, ça, déjà dès le premier cours, la capacité d'aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas liée à l'argent? Est-ce qu'elle n'est pas. Il faudra voir, sans doute, sans doute.
Oui. Est-ce que vous aborderez le pouvoir féminin et le pouvoir masculin?
Ben, je l'ai dit, la question de consentement, ça va être intéressant. Ben, le pouvoir au féminin, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais le pouvoir masculin. Oui, ça va.
Donc, pouvoir.
Il y a plus de pouvoir.
Le mot en deux syllabes. Et j'obtiens. Et moi, est-ce que je peux concilier l'attitude et le mode d'organisation de ou du pouvoir sans réfléchir la perception?
Alors, on ne sert pas dedans. Dans le mot, bah, oui, alors c'est pour les nouveaux, les anciens, ça ne pose pas de problème. On appelle ça le moustapisme. Moustapha, c'est un lexique très particulier qui prend un mot, il le découpe, et tout, voir, c'est tout et voir. Donc, quand on dit que dans pouvoir, il y a voir. Alors, tout, je ne sais pas, ça ne peut pas parler, mais il y a voir. Il y a voir. Et donc, ce que demande Moustapha, dans la notion du pouvoir en tant que mode d'organisation de rapport de force, etc., dans quelle mesure c'est lié ou non, déterminé ou non, ou ça détermine ou pas, si j'ai bien compris, la perception de la chose. Comment la perception de la chose, donc la perception qu'on peut avoir du pouvoir par exemple, joue en lui-même dans le mode d'organisation. C'est ça que tu veux dire. Alors, si tout le monde a compris, il se trouve, Moustapha, mais Bernard te répondra aussi, mais il se trouve que le premier cours, voilà, comme ça je l'annonce, puisqu'il est prêt, hein, le premier cours que vous aurez dans un mois, genre, après à peu près, on a encore deux, trois choses à voir, mais il se trouve que ce sera un peu la langue d'attaque, c'est-à-dire, il se peut qu'en fin de compte, entre ce que je peux faire, la capacité à, de, comme vous voulez, l'aptitude à, et la représentation qu'on peut avoir des choses qui permettent de faire, de pouvoir faire, il y a tout un jeu, c'est-à-dire que la représentation de ce pouvoir joue autant de rôle que le pouvoir réel que j'ai. Voilà. Mais, là j'étais peut-être trop loin, mais je vois que ça compte, que c'est pas, peut-être pas très clair ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le fait, je prends un exemple concret, le fait, vous savez, c'est, voilà, je vais prendre... Pas les malades, mais les gens. Non, vous savez, les gens qui se trouvent dans une situation difficile. Enfin, pas forcément malades, situation difficile. Vous savez, c'est ceux qu'on va dire, il y en a qui sont positifs,
et qu'une représentation de leur situation, je ne suis pas faire ou pas, qui va jouer dans ce qu'ils vont faire. Et puis il y en a qui sont négatifs, qui ne savent pas, c'est, voilà, qui sont, et qui du coup ça va jouer aussi dans ce qu'ils ne vont pas faire. Vous voyez, c'est ça. Donc je pense que ça va répondre à ta question à peu près. Donc ne vous inquiétez pas, ça, c'est là-dessus qu'on va travailler en premier. C'est là-dessus qu'on va travailler. Oui.
Non, c'est bon. C'est pas une bêtise.
Une demande de
oui.
Parole, là.
Oui.
Dans ces deux concepts, justement, est-ce que c'est pas lié à l'ambiguïté de la langue française qui n'emploie qu'un terme? Parce que l'anglais, par exemple, a deux termes complètement différents pour ces deux notions de pouvoir.
Pouvoir,
le pouvoir physique, le pouvoir permission.
Alors, les deux termes en anglais. Monsieur dit, est-ce que ça vient pas d'un problème de vocabulaire en France? Parce que, on prend les anglais, ils ont deux termes. Alors, quels sont ces deux termes? Quels sont ces termes vous pensez?
Calmer, calmer. Mais, il y a une est-ce que j'ai la permission? Oui, calme.
Oui,
calme.
Mais en France aussi, il y a
la permission.
Oui, mais on n'a pas le même terme. On n'a pas le même terme, mais ils n'ont pas des vrais d'accord. Monsieur dit qu'en anglais, par exemple, c'est pour donner un exemple, le vocabulaire est tel qu'il y a des distinctions qu'on ne fait peut-être pas en français.
Voilà. Hein. Et est-ce que je peux, par exemple, dire en belge, est-ce que je peux donner là,
oui, je n'ai pas compris là.
Un belge, vous dites, est-ce que vous pouvez me donner là, il va vous répondre, oui, j'ai une.
D'accord. Un belge, si vous lui demandez l'heure, il vous répond oui. Pouvez-vous? Oui, j'ai bon. Oui, mais moi, je dis. Pourtant, je ne suis pas belge, à chaque fois qu'on me demande l'heure, on me demande est-ce que tu peux me donner l'heure? Je dis oui. Après, j'entends. Maintenant, il faut le dire. D'accord.
Alors, oui. Si vos pouvoirs, vos règles, vos croyances, c'est-à-dire que les victimes sont victimes par rapport à la situation, par rapport à des règles. C'est-à-dire, si bien, effectivement,
et des règles. Ce dont parlait Bernard, c'est-à-dire la servitude volontaire, c'est ça.
Oui, mais il y a la notion de règles.
Oui.
Imposées, virtuelles, sujets invisibles et autres. Donc il y a cette notion de règles associées au pouvoir.
D'accord. Donc, peut-être tu veux répondre. Ah. En fait, il comprend quand il. Soyez très alarmant. Donc. Non, mais t'as pas compris.
J'ai compris. Qu'est-ce qu'il a dit?
Alors, monsieur dit. Je suis pas sûr d'avoir du même compris. Dans la notion de pouvoir, la servitude volontaire, c'est-à-dire dans le rapport. Au pouvoir, celui qui est dominé, hein, si j'ai bien compris, on n'a pas parlé de règles, c'est-à-dire le fait d'être régulé par, quelques, par des règles, le fait de suivre des règles, par exemple, dans quelle mesure, ça ne vient pas tant d'un pouvoir en tant que tel qui s'exerce, mais simplement le fait qu'il y a des règles et qu'on est en quelque sorte habitué à des règles, donc on les suit, et en fait, ce qui expliquerait, c'est ça votre idée, ce qui expliquerait le consentement en quelque sorte.
Il reste à expliquer pourquoi je obéis aux règles. Il y a, je ne sais pas qui a dit que le projet le soutien le plus fort du pouvoir, c'est l'opinion de ses voisins. Parce que finalement, braver l'opinion de ses voisins, ça semble être extrêmement difficile.
Bien.
Mais pourquoi? Pourquoi tenez-vous à l'estime de votre voisin? Alors que le fait de tenir à l'estime de ses voisins soit le ressort de l'affaire, sans doute. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de dire au voisin, non, c'est ce que tu veux. Et moi, je fais ce que j'en fais.
Alors, vous parlez du pouvoir de l'église. Vous n'en parlez pas là aussi, elle est sur le pouvoir. C'est genre.
Si vous mettez le pouvoir trop loin de vous, c'est comme si vous ne l'aviez pas.
Vous parlez du pouvoir de l'église. Il essaie justement de reprendre du pouvoir à ce moment-là.
Je n'ai pas parlé du pouvoir de l'église. J'ai cru dire que. À l'intérieur de tout groupe humain, il y avait des rapports de pouvoir. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas le pouvoir de l'Église. C'est éventuellement, ce que je disais, c'est des rapports de pouvoir à l'intérieur des personnes qui se réclament de telle ou telle Église. Et qu'à l'intérieur de ce cercle, eh bien, il y a des rapports de pouvoir. C'est un autre problème d'envisager le pouvoir de l'institution elle-même. C'est une question, mais ce n'est pas celle-là que j'avais pointée.
Oui, il y a des choses qui...
Mustapha, tu ne fais pas ton boulot, hein.
Oui.
Alors, attends, comment je pose la question? Et il me semble que dans le pouvoir, il faut qu'il y ait un certain, comment dire, un certain, une certaine égalité entre les gens. Parce que, quand même, il peut arriver de se sentir trop pouvoir par rapport à quelqu'un et pas oser l'exercer. Ah ben, ça existe.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Tu n'as pas compris?
Non.
Il faut, dans les notions de pouvoir, qu'il y ait quand même une certaine égalité de niveau entre les gens. Parce que autrement, quelquefois, exercer son pouvoir, c'est trop facile. Ça ne représente rien. C'est ça.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des. Ce que veut dire madame, je comprends par rapport à son avis sur la servitude volontaire, par exemple. Celui qui est dominé. Celui qui est dominé, il peut l'être de par son consentement, le désir d'être dominé, dont parlait Bernard, mais à l'inverse, est-ce qu'il ne faut pas non plus une certaine forme, parce que là, ça laisse supposer qu'il y a déjà une hiérarchie, voilà, mais est-ce qu'il ne faut pas supposer quand même une certaine forme d'égalité à la base, parce que à l'inverse, celui qui domine peut parfois avoir, il peut hésiter à exercer son pouvoir parce qu'il sent trop de pouvoir. Du coup, alors qu'il devrait exercer son pouvoir. Moi, je ne sais pas si c'est comme ça que vous pensez, mais vous savez qu'il y a des structures parfois, dans le monde du travail, par exemple, ces choses-là, où il peut arriver que quelqu'un, parce qu'il a un pouvoir important, finisse par hésiter à l'exercer parce qu'il ne va pas respecter les autres ou je ne sais quoi. Et en fin de compte, du coup, ça ne fonctionne pas. Du coup, les rapports de force qui devraient s'organiser d'une façon ne s'organisent pas et ça peut pénaliser, évidemment, l'entreprise, etc. Donc, oui, c'est pas inintéressant. Est-ce que les rapports, moi je dirais les choses autrement, le problème là, c'est est-ce que les rapports de pouvoir impliquent nécessairement une inégalité entre ceux qui s'exercent le pouvoir, ou alors ne faut-il pas à l'inverse penser le pouvoir à partir d'une sorte d'égalité? Et donc le pouvoir, bah, qu'est-ce que c'est le pouvoir? Alors, après, il faut essayer de répondre. Oui, d'accord.
Oui, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont le pouvoir, mais qui ont un peu scrupule à exercer tout seul. Oui, c'est ça, c'est quand même un peu marrant. On va parler de son corps. Voilà. Le conditionnement, par exemple, de la manipulation, l'exercice du pouvoir, ça aussi, ce sont des choses qui sont diffusées par les médias, par tout un tas de médias, notamment. Dans lequel on peine tout le temps, qui n'est pas conditionné ou manipulé à l'ordre
public. Oui. Il faut que les choses soient claires. La notion de pouvoir est une notion qui regroupe énormément de choses. Donc il y a énormément d'angles sous lesquels on aurait pu la prendre. On ne les fera pas tous. Parce que si ce que j'ai dit n'est pas complètement stupide, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on a un groupe humain, on se trouve face à des relations de pouvoir, le nombre de groupes humains, la forme des groupes humains, le type de groupe humain, c'est innombrable.
Donc, on aurait pu prendre le pouvoir et l'éducation. Alors, le pouvoir masculin, le pouvoir homme-femme, le pouvoir parent-enfant. Enfin, il y a 36 000 formes. On ne pourra pas tout faire. On n'a pris que certains. On n'a pris que certains. Donc, ce qu'on a pris, bon, à l'époque, on ne prétend pas faire une analyse exhaustive du pouvoir. Mais à propos de la notion de pouvoir, on a pris quelques aspects sur lesquels, eh bien, on va essayer de faire de la philosophie. Mais y a certainement beaucoup d'autres aspects du pouvoir dont on sera peut-être amené à en parler en cours de séance, mais on ne les a pas pris en tant que tel, quoi. Vous vouliez parler, madame.
Oui, on parlait de pouvoir, mais on
ne
pas
rien.
Merci pour
vous. Il faut le mettre vraiment. Sinon, ça marche.
Très bien, très bien.
Sinon, ça marche. Voilà. Non, mais c'est tout simplement qu'on a du mal. Hein. Vraiment. Madame dit, là j'ai entendu, Madame dit, finalement, lorsqu'on parle de pouvoir, il y a des taxes de puissance, domination, etc. Donc, si on veut vraiment en parler, il va falloir à un moment ou un autre mettre ça sur la table, essayer d'en discuter, voir si c'est vraiment ça ou pas ça, c'est ça que je voulais dire. C'est précisément ce qu'on propose en cours, cette deuxième période, c'est qu'on met sur la table les évidences qu'on a pour les discuter.
Est-ce que le pouvoir a été dans la rue hier?
Est-ce que le pouvoir a été dans la rue hier? Avec les lycéens, hein, ouais, apparemment. Pas dans tous les lycées.
Oui, allez-y. Je vais poser une question à Bernard. Vous avez parlé tout à l'heure de société sans État. Comment définissez exactement l'État et qu'est-ce que
Mais on va en parler tout à l'heure, justement, en présentant les différents ouvrages qu'on a vus. Un État, c'est une institution séparée, on distingue l'État et puis la société civile. Donc il y a deux niveaux, il y a la société civile, et puis il y a l'institution de l'État. C'est-à-dire qu'il y a un lieu séparé du pouvoir. Il y a une institution particulière, détentrice du pouvoir, alors sous 36 000 modes, que là, ça aurait pu être ça aussi. Les modes d'organisation de ces institutions séparées. On n'en parlera pas, ou du moins si on en parle, c'est à l'occasion. Mais ce n'est pas l'angle sur lequel on le fera.
Par exemple, est-ce qu'un chef de village africain et son village, c'est un État ou pas, quelque part?
Eh bien, un chef de village dans un. Alors, ça dépend lesquels et ça dépend où. C'est là la même chose, la notion de pouvoir. Est-ce que la notion de pouvoir, est-ce que ce qui n'est pas conforme à notre manière, nous, d'envisager le pouvoir, c'est une absence de pouvoir? Ou est-ce que c'est une autre mode d'organisation du pouvoir? Bien, le chef du village, ben, ça dépend de son pouvoir. On va parler tout à l'heure peut-être avec classe de structure sociale. C'est les Indiens d'Amérique du Sud, donc ça fait du XVIe siècle. Quand même pas si loin que ça. On a des structures sociales
qui fonctionne, où il n'y a pas de chef, où personne ne commande, et d'ailleurs personne n'aurait l'idée de commander, et surtout personne n'aurait l'idée d'obéir. Surtout. Mais ça fonctionne. Alors ça fonctionne comment? Alors ça fonctionne, alors les Occidentaux, les Espagnols et puis les Jésuites, quand ils arrivent face à ces peuples-là, on se demande d'ailleurs si c'est vraiment des hommes. Bon. Mais on finit quand même parce que faut les évangéliser, donc ça doit quand même être des hommes. Donc les. Mais ils n'ont pas de roi, ils n'ont pas de loi. Ils n'ont pas de religion. C'est quoi ça? C'est des sauvages. Finalement, c'est des sauvages. C'est des sauvages. Et que ben, nous, on était sans doute des sauvages à une certaine période, mais on a été civilisés. Et quand eux seront civilisés, eh ben, ils finiront par être comme nous. Bon, voilà, ça c'est la mentalité, si vous voulez, des colonisateurs quand ils arrivent dans un pays. Bien. Bon. Et là, alors c'est un peu le sens du texte que vous avez au dos de la phrase que vous avez tirée du début. C'est ça. Comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne, et ça fonctionne effectivement par la parole. Alors il y a bien un chef, mais qui n'a aucun pouvoir. Et simplement, il faut qu'il parle. Il parle. Personne ne l'écoute parce qu'on sait ce qu'il va dire. Donc il dit toujours pareil. Il ne fait que rappeler constamment nos ancêtres ont fait comme ça. Nos pères ont fait comme ça. Nos ancêtres ont fait comme ça. Nos pères ont fait comme ça. La tradition a fait que. Et donc le pouvoir, il est diffus. Il est diffus, en fait, au niveau de l'ensemble de la structure sociale. Il n'y a pas dans ces structures sociales, de lieux séparés du pouvoir. Il n'y a pas d'institution séparée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pouvoir. Mais il n'y a pas de pouvoir semblable à ce qu'est chez nous le pouvoir. Donc ça, si vous voulez, on l'aura. On va présenter quelques livres tout à l'heure. On l'a à travers les études d'ethnologues, si vous voulez. Alors, dans les villages africains, ben, j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas d'études là-dessus. Mais c'est certainement différent. Le village africain, ce n'est pas vraiment un État. Non. Il n'y a pas de police, il n'y a pas d'administration. Donc, parce qu'il faut quand même voir ce qu'est qu'un État. Un État, ce n'est pas Sarkozy. Sarkozy d'ailleurs, il est président de la République, il a peut-être moins de pouvoir qu'on ne pense. Le pouvoir de l'État, il n'est peut-être pas dans les mains de ceux qu'on croit. L'administration, l'inertie de l'administration, constitue peut-être dans l'institution qu'est l'État un lieu de pouvoir plus important peut-être que le lieu qu'occupent les ministres, et les... parce qu'on fait faire des lois, c'est bien. Il y a combien de lois en France qui n'ont jamais été appliquées? Il y a combien de lois en France dont les décrets d'application n'existent pas? Donc on fait des lois, mais les décrets d'application n'existent pas. Et puis même si les décrets d'application existent, faut-il encore qu'elle soit mise en œuvre. D'où. Mais c'est toute une machine, si vous voulez. L'État, c'est une machine séparée, dont les rapports avec la société civile, eh bien, varient selon les peuples, selon les pays, selon les cultures. L'État français n'est pas l'État iranien. L'État français n'est pas tout à fait la même chose que l'État anglais. Bon, enfin voilà, quoi, si vous voulez, il y a tout un tas de... Mais ce qui leur est commun, c'est que c'est un lieu séparé du pouvoir. Le pouvoir politique, là, est là. Mais il n'empêche que même si il y a là un lieu séparé du pouvoir à tous les niveaux de la société, partout où les hommes se rencontrent, partout où les hommes sont organisés entre eux pour faire quelque chose, eh bien, à ces niveaux-là, il y a des rapports de pouvoir. Et ce qui peut être intéressant, c'est justement de voir que la nature de ces rapports de pouvoir à ce niveau-là, quel rapport ça entretient avec ce qui se passe dans ce lieu séparé, quel état ? Et comment l'un s'appuie-t-il sur l'autre, etc. On parle tout à l'heure, j'ai parlé de ces pays où le chef n'arrête pas de parler. Personne ne l'écoute. Mais sa parole, finalement, finit par être une espèce de consensus.
Et pourquoi c'est lui qui parle ?
Hein ?
Pourquoi c'est lui qui parle ?
Pourquoi ?
C'est lui qui parle.
Ah, parce qu'il est désigné pour parler, parce qu'il parle bien.
Parle.
Donc il parle bien, donc on l'a choisi pour bien parler. Et s'il ne parle plus, eh bien on le remplace.
Je fais bien le
choix. Moi je fais bien le choix. Mais de la même manière.
Enfin, oui. Si je crois que je vais essayer de rappeler ce que je voulais dire parce que c'est déjà vieux. Et quand vous avez parlé du pouvoir diffus dans les sociétés, est-ce que c'est possible qu'il y ait pouvoir diffus si la structure sociale est très grande?
C'est des structures sociales qui peuvent aller jusqu'à des gros villages. Les plus grosses sont des gros villages. Ça fait 2000 habitants. 2000 et quelques habitants. Oui. Non, mais rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'est pas question, par exemple, de dire que parce que ça existe là-bas, c'est la forme qu'il faudrait que ça ait ici. Ah, c'est rien. La seule chose, moi, qui m'intéresse, c'est que, puisque certaines structures sociales sont organisées de la sorte, et fonctionnent, et ont fonctionné de la sorte, ça ne me montre qu'une chose, c'est qu'une structure sociale peut exister sans État. Je ne dis pas que nous, notre structure sociale peut exister sans État, j'en sais rien. Mais donc la notion de pouvoir n'est pas liée en tant que telle à l'existence d'un État. L'État est une forme particulière du pouvoir. Mais ça n'est pas le pouvoir. D'où, si c'est le pouvoir, j'ai rien à expliquer. C'est ça ou c'est rien. Non, c'est pas ça ou c'est rien. D'où, si je me trouve face à telle forme de pouvoir, eh bien, je dois pouvoir en analyser les conditions. À quoi ça tient? Pourquoi? Comment, éventuellement, je passe d'une structure sociale sans État à une structure sociale avec État? Et pourquoi je pourrais éventuellement passer, peut-être, j'en sais rien, d'une structure sociale avec État à une société sociale sans État. Vous allez me dire, vous êtes en train de rêver. Je ne rêve pas, je ne dis pas que c'est possible. Je sais dire simplement que, par exemple, tous les courants anarchistes, et y compris le courant marxiste, même si historiquement ça a produit l'inverse, on fait dans un premier temps un État dont le but est d'assurer le dépérissement de l'État. D'où l'idée que l'État puisse dépérir est une idée elle-même occidentale. Même si c'est une idée qui pour l'instant n'a eu aucun début de réalisation. Donc c'est tout à fait, c'est ça l'intérêt. Ouais. Le micro est là.
Oui, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut justement travailler sur cette notion de pouvoir sur soi, avoir du pouvoir sur moi et savoir aller vers de plus en plus de connaissances de soi et de pouvoir sur soi, et en face, la notion de pouvoir sur l'autre, c'est-à-dire pouvoir sur soi, pouvoir sur l'autre, pouvoir sur les autres, et aussi questionner le moment où s'instituent les choses, c'est-à-dire que finalement, je pense qu'on a du pouvoir sur les autres parce qu'on existe tout simplement, et qu'on a une influence, et qu'il y a des choses qui se passent entre soi et les autres. Mais en fait, à partir du moment où c'est institué ce pouvoir, et qu'on dit un tel a le pouvoir sur, et à quel moment, effectivement, ce pouvoir confisque à l'autre son pouvoir sur soi, sur lui-même. Et du coup, cette articulation entre ce pouvoir sur soi et ce pouvoir sur les autres institué. Voilà.
On peut être pessimiste ou optimiste. La bouteille est toujours ou à moitié pleine ou à moitié vide. Donc il se peut que le pouvoir de l'autre soit aussi la condition du mien. Pourquoi veux-tu, d'où tiens-tu, que le pouvoir de l'autre est obligatoirement une limite au mien? Il en est peut-être la condition. Peut-être. Il faut aller voir. Les évidences sont toujours à remettre en cause. Dans notre tradition, la liberté de l'autre est toujours la limite de la mienne. Mais la liberté de l'autre est peut-être la condition de la mienne. Donc la capacité à faire de l'autre est peut-être la condition de ma capacité à faire, et non pas un obstacle. Mais elle peut être un obstacle. Elle peut. Dans certains cas, il faut analyser les cas. On n'est jamais dispensé de réfléchir.
C'est comme ça qu'intervient la notion d'abus.
Qu'est-ce qu'il dit ? C'est peut-être là qu'intervient la notion d'abus de pouvoir.
Alors la notion d'abus de pouvoir, ben oui, il faudra l'analyser aussi peut-être, on verra ça. Non, mais il y a beaucoup de choses. Hein. Comme on avait peur de ne pas savoir quoi dire, on a pris le pouvoir pour s'en être sûr. De... Il y aura toujours quelque chose à dire. Là, on est bon. On est là pour au moins toute l'année, sinon plus.
Moi, je voudrais savoir si vous organisez toujours le membre existence de ce que vous savez, c'est le cas.
Je ne comprends pas.
Il y a des gens qui ont étudié les structures sociales, ils ont montré qu'avec les places sociales, il n'y a pas de pouvoir.
C'est le texte de place qu'on vous a distribué.
Oui.
C'est un exode.
Non, mais ça, c'est.
C'est un exode.
Est-ce qu'on rue, c'est plus pour à quel tribu, par exemple.
Voilà, alors dans son livre, on verra ça après en détail. Ben, peut-être que le plus simple, si vous êtes d'accord, parce que l'heure avance, le plus simple, c'est que Bernard fasse, il devait faire présenter les livres. Donc vous aurez à ce moment-là, et vous aurez la réponse claire. Là, très bien, on voulait vous parler un peu du texte. On vous laisse, de toute façon, on va y revenir sur ce texte. Ça vous donne un texte pour y réfléchir pour la prochaine fois. Hein, on fait la biographie tranquillement. On fait une pause d'un mois, donc c'est une bonne pause. Hein, il y a le temps d'y réfléchir. Y réfléchir tranquillement, sachant que le texte de classe, là, tout ce qu'on vient de dire, c'est l'idée qu'il y a dans le texte de classe. Simplement, je rajouterai, au cas où, comme ça, vous l'avez. C'est bien l'idée qu'il peut avoir, apparemment, les ethnologues observent des sociétés sans État, ça veut dire, du point de vue de l'ethnologue, ça veut dire des formes de pouvoir que nous, on ne reconnaît pas comme pouvoir. Et que du coup, ça interroge notre propre façon de vivre ce qu'on appelle pouvoir, mais surtout, évidemment, on verra ça plutôt sur la fin des cours, c'est un peu compliqué de dire comme ça, quand vous devez voir des choses avant, mais surtout, l'idée que ce que les ethnologues appellent depuis Lévi-Strauss l'ethnocentrisme, c'est-à-dire le fait que chaque culture a une tendance, de toute façon, à ne voir chez les autres que ce qu'ils peuvent eux-mêmes valoriser en tant que tels par rapport à leur propre culture. Et évidemment, ce qui est vrai pour les autres est vrai pour nous. C'est-à-dire qu'en Occident, eh bien, c'est ce qu'a décrit tout à l'heure Bernard lorsque les Espagnols ont découvert l'Amérique du Sud et qu'ils ont été confrontés évidemment à des cultures qui ne sont pas comme nous. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le fait de ne pas reconnaître, c'est pas que dans la société il n'y a pas de pouvoir, c'est que nous sommes dans l'incapacité de reconnaître quelque chose comme le pouvoir parce que nous n'avons pas d'autre manière de juger ce qu'est le pouvoir que par rapport à ce que nous vivons nous-mêmes. C'est bref, ça serait plutôt l'ethnologie. Mais voilà, comme ça, c'est pour que vous puissiez lire le texte tranquillement. Mais c'est ça en fait. C'est ça en fait. Peut-être vous présenter les livres, et puis non, on arrête les questions, je pense. On n'aura pas de temps de venir. Vous inquiétez pas, la prochaine fois, il y aura de nouveau un débat, on prendra peut-être plus de temps, on va organiser le cours. Il y aura évidemment, alors pour les nouveaux, je ne l'ai pas dit, pour les, mais les anciens vous expliqueront. Souvent, on fait une projection, c'est-à-dire que là, on ne l'a pas fait, mais normalement, on fait une projection. C'est-à-dire, vous avez un schéma sous les yeux, on le projette sur grand écran, et on commente le schéma, etc. Voilà. Vas-y.
Bien. Donc, simplement une présentation rapide de certains livres, dont on va commencer par le premier, La société contre l'État. Donc, c'est un livre, vous l'avez dans votre bibliographie, qui date de 1974. Alors là, nous sommes avec un ethnologue. Et c'est une étude qui porte sur les Indiens Guayaquil et Curiguayaqui, donc d'Amérique du Sud, et qui est faite à partir des documents que les colonisateurs et les jésuites, en arrivant, donc les études qu'ils ont faites des sociétés qu'ils rencontraient, et en même temps avec les études ethnologiques qui ont été faites dessus. Et ils se trouvent face, effectivement, à une forme de société où il n'y a pas de lieu séparé du pouvoir. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, voilà ce qui est l'objet. Alors, dans ce livre-là, ne lisez pas tout, ce n'est pas absolument nécessaire, c'est le début et la fin qui sont intéressants. Les deux premiers chapitres...
Oui, ce qui veut dire, Bernard, c'est que le milieu, c'est... Voilà, c'est les Indiens, c'est les... il y a beaucoup de noms. Beaucoup
le milieu, c'est le détail de enfin, c'est le travail scientifique de description, des systèmes de parenté, des systèmes de la démographie, enfin, de tout un tas de choses. C'est pas inintéressant, vous pouvez le lire. Hein. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, c'est les conclusions qu'on en tire. Hein. Et elles sont développées dans la première partie, les deux premiers chapitres, et puis dans les deux derniers chapitres. Ou le dernier chapitre. Voilà. La société contre l'État. On y fera référence souvent. On y fera référence souvent. Le texte que vous avez au dos est tiré de cela. Est tiré du premier chapitre de ce livre-là. Il est toujours disponible. C'est un vieux livre que moi j'ai lu depuis longtemps, quand j'étais jeune. Mais je me le suis procuré il n'y a pas longtemps à la Fnac. Donc il est toujours disponible. 15 euros. On l'a demandé, voilà. On l'a demandé à la bibliothèque.
Donc il devrait être commandé
là, s'il pouvait le mettre. On en a commandé deux. On a commandé celui-ci. Et puis un autre, c'est de Foucault, Le surveiller et punir. Surveiller et punir, c'est pareil. Ne lisez pas tout. Ne lisez pas tout, lisez. Il y a trois parties dedans, et dans la troisième partie, c'est le chapitre 3, qui s'appelle le panoptisme. Alors le panoptisme, il y avait l'architecte dans la salle? Non? C'est quoi le panoptisme? Voilà, oui, c'est une figure architecturale qu'un certain Bentham préconisait pour l'établissement des prisons. Donc c'est une structure architecturale de telle sorte que les prisonniers ne se voient pas. Chaque prisonnier est tout seul dans sa cellule, mais au centre, donc c'est en rond, et au centre de cette structure, il y a bien sûr une tour de surveillance, et l'homme qui est dans la tour, lui, voit constamment la totalité des prisonniers. Donc c'est un élément qu'on aura à revoir avec pouvoir et transparence. Le fait d'être toujours vu.
On a pensé à Internet.
Le fait d'être toujours vu. Et en opposition, le fait de pouvoir être caché. pour être heureux, mais pour cacher. Bon, donc, voilà. Donc, c'est la dernière partie de notre cours. Alors, sinon, je vais un peu vite parce qu'il faut qu'on...
Tu as 5 minutes.
Hein ?
5 minutes.
J'ai 5 minutes, oui. Bon. Alors, le pouvoir, ça c'est un petit livre, c'est le premier dans la liste. Vous avez toute une série de textes, ça va de Aristote à Foucault. Hein, donc, ça couvre. Il y a une analyse au début sur le pouvoir. Ça a tendance, sauf dans les derniers textes, en particulier celui de Foucault, à prendre le pouvoir au sens du pouvoir politique, la structure politique. L'intérêt de Foucault, aussi bien dans Surveiller et punir que dans cet autre livre, L'Anthologie, c'est que Foucault va essayer de voir comment ce pouvoir, y compris le pouvoir de l'État, mais se réalise de manière diffuse. De manière diffuse dans tout un tas de données qui apparemment ne sont pas des lieux de pouvoir et où tout ça et il va insister beaucoup par exemple sur le pouvoir de la norme que le pouvoir fonctionne par la norme. On a parlé tout à l'heure du langage, de la parole, on a ri en m'écoutant dire que le chef n'arrêtait pas de parler mais que personne ne l'écoutait, mais nous sommes actuellement envahis par la parole. On n'arrête pas de nous parler. Et pour dire toujours pareil. Alors on écoute ou on n'écoute pas, mais le poste est branché ou la télé est branchée à longueur de journée, et on n'arrête pas d'entendre quoi, au fait. Donc, finalement, nos sauvages indiens, ben, nous faisons peut-être la même chose, différemment. Et le pouvoir qui se manifeste par la parole chez les Indiens, est-ce que dans ces paroles dont on nous envahit, bon, est-ce que le pouvoir est absent? Pourquoi serait-il absent? Bien, alors, puisque je suis dans Foucault, ça c'est une anthologie. Alors, c'est la deuxième partie, c'est intéressant. Il y a les deux dernières parties, régime de pouvoir et régime de vérité, et puis le gouvernement de soi et des autres. Foucault, c'est pas forcément facile, hein. Mais bon. Alors, quelques petits ouvrages. Il y a le savant et la politique.
Je ne l'ai pas lu, par contre.
On vous le présentera.
On vous le présentera la prochaine.
Là, ça, c'est des sociologues. Crozier, l'acteur et le système. Bah, c'est une analyse sociologique des différents rouages de l'État, par contre. Anna Arendt, vous connaissez le nom, au moins, La crise de la culture. Donc là aussi, tout n'est pas à lire, vous pouvez tout lire, parce qu'ils sont trop de difficultés. Mais il y a quelques chapitres intéressants. Qu'est-ce que l'autorité, le chapitre 3, on y fera sans doute référence. Vérité politique, le chapitre 7, également. Dans cela. Ma capacité à faire, eh bien, c'est ce que je veux faire. Alors, vous avez de Joël Proust, on en avait parlé l'an dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, La nature de la volonté.
Alors, Joël philosophe. Joël Proust qui a beaucoup travaillé sur les animaux, hein.
Oui, c'est une philosophe qui travaille avec une neuroscientifique. Et pour finir, qui n'est pas marqué, mais il faut bien quand même l'indiquer, c'est la poésie, le discours de la servitude. Voilà. Dernier préparé. Quand vous aurez tout lu, pour la prochaine fois.
Voilà, vous avez un mois. Hein.